Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
Bonjour tout le monde, 16h03, on vient de vous le dire. Eh bah oui, nous sommes à l'heure, vous aussi, merci de nous avoir rejoints sur Europe 1. On est ravis de vous retrouver, et ce pour deux heures de rigolade, deux heures de détente, mais deux heures durant lesquelles nous allons apprendre des choses avec mes petits camarades de jeu. Oui, vous allez pouvoir jouer également avec nous, parfois pour du beurre, notamment avec Jules Bernard Leblond.
Bonjour.
Vous aimez le beurre?
Oh, j'aime le beurre. Voilà. Ça se voit pas peut-être?
Bah si, un petit peu. Voilà. C'est de la radio, donc on peut dire tout ce qu'on veut. Surtout, vous aimez le beurre rance.
Voilà, pas frais.
Vous voyez, le,
moi, c'est ça
voilà,
que j'aime.
Le beurre pas frais.
Les infos
pas fraîches.
Oui.
Mais insolites, bien sûr. Les infos drôles. À nous de découvrir. C'est pour ça que je disais, je m'adressais aux auditeurs d'Europe 1. Nous allons devoir découvrir parmi les propositions totalement loufoques que vous allez nous faire, quelle est la vraie histoire. Et il y a une vraie histoire dans ces propositions loufoques. Ce sera le quiz qui s'est passé. Nicolas Beuters va nous apprendre des choses concernant la presse locale. Que s'est-il passé près de chez vous, Nicolas? Bonjour.
Bonjour Bérénice, bonjour à tous.
On va où?
Nous allons à Loches.
Ah,
ouais. Fallait bien y aller.
Je connais quelqu'un.
Très bien. L'association, non, je préfère arrêter avant quoi que ce soit. L'association du jour, c'est l'association Lire pour en sortir, une association qui permet d'offrir de la lecture aux personnes détenues. Nous allons apprendre aussi des choses avec les devoirs de vacances. Ah bah bien sûr, encore deux jours de devoirs de vacances avec Clara Léger. Nous allons apprendre avec vous, Maître Galibert, que je salue, bonjour.
Oui, alors le pays est sous la canicule aujourd'hui, nous allons nous rafraîchir du côté de l'océan et du côté de la Méditerranée.
Allez, un grand plouf avec le quiz des régions, je vous le disais il y a quelques minutes. Pour jouer avec nous, pour vous inscrire, pour peut-être gagner un an de vacances, il vous suffit tout simplement d'envoyer le SMS région au 739 21. C'est arrivé près de chez vous, c'est parti.
Bérénice Bourgueil sur Europe 1, proche de vous et près de chez vous.
C'est arrivé près de chez vous, c'est certainement dans la presse régionale. Et si c'est dans la presse régionale, c'est certainement dans la chronique de Nicolas. N'est-ce pas, Nicolas?
Mais tout à fait.
Eh bien, alors dites-nous tout. Où allons-nous? Qu'avez-vous appris? Et surtout, quelle gazette locale avez-vous lue?
Dans le grand kiosque, celui qui se trouve à l'entrée d'Europe 1, ici à Paris, j'ai découvert...
Il y a toute la presse locale.
Tout est là. J'ai découvert la Renaissance lochoise. C'est l'hebdomadaire de la Touraine du Sud. Nous sommes donc dans le département d'Indre-et-Loire, et juste comme ça, la communauté de communes de la Touraine du Sud disparaît le 31 décembre 2016 au profit de la communauté de communes Loches-Sud-Touraine. Ça, c'était le petit moment Wikipédia de cette chronique.
Je n'ai rien compris.
Mais moi non plus, je l'ai lu, donc je me suis dit, tiens,
voilà,
si
donc,
je
donc
le
vous
lis,
le dites.
C'est que c'est vrai.
Hein? Certainement.
Mais vous pouvez nous appeler si ce n'est pas vrai. Donc, dans la Renaissance lochoise, j'ai appris un nouveau mot.
Ah.
Et ce nouveau mot, c'est placomusophilie.
Oui.
Qu'est-ce que la placomusophilie?
Ah, c'est quand on fait des doubles parois.
En placo?
En placo.
Bien sûr. Avec son nez.
Avec du B13.
Voilà. Eh bien, c'est pas du tout ça.
D'accord, très bien.
La placomusophilie, c'est collectionner les capsules de bouchons de champagne.
Ah, le petit.
La petite capsule.
Ben, mon beau-père est placomusophile.
Eh bien, voilà. Eh bien, vous pourrez lui dire.
Bah oui, ça, je...
La
ça,
prochaine
je vais
fois.
Dire.
Ah, bah alors comme ça, on est placomusophile.
Ah, ouais, voilà.
Eh bien, comme Philippe, si je puis me permettre. Alors, Philippe, c'est le monsieur dont on a fait le portrait dans la Renaissance lochoise. Et Philippe, il habite Sorigny. Dans sa collection, on retrouve 20 000 capsules de bouchons de champagne. Il possède des capsules en métal, bien entendu, mais aussi en porcelaine de Limoges.
Ah ouais.
Des capsules plaquées or ou argent, en strass ou peintes à la main. Et sa plus belle pièce vaut 20 000 euros.
20 000
euros?
Mais
non. Mais si. Mais si, je l'ai lu. 20 000 euros pour une petite plaquette de bouchons de champagne. Alors, Philippe, il balance quand même dans son interview. Il dit quand même, oui, c'est un grand collectionneur, mais le plus grand des collectionneurs au monde, il en possède 100 000.
Il avait soif. Hein.
Ah ouais.
Mettez ça dans des bacs ou quoi?
Non, ça s'expose. Ça s'expose.
Ce qui veut dire qu'il y a 100 000 producteurs de champagne différents.
En tout cas, il y a 100 000,
100 000
capsules de bouchons. Non, un producteur peut avoir plusieurs capsules de bouchons.
D'accord.
Oui, oui.
Parmi les îles.
Ça fait des belles cheminées. On met au-dessus des cheminées, on colle.
Des beaux pins.
Ouais, ça peut insonoriser, c'est pas comme les boîtes à œufs.
Ou faire des belles boucles d'oreilles.
Ah,
ça vous intéresse,
mais moi j'en ai, mais en capsule de bière. Bon, enfin bref.
Et en lettres de Scrabble.
Autre gazette, autre info, pas comme les autres, Nicolas.
Bah alors j'ai lu le quotidien L'Action, l'écho de la Ferté-Bernard.
Vous avez pas fait ça?
Mais si, je l'ai fait, c'est mon métier depuis ce mois d'août. Alors là, nous sommes dans le département de la Sarthe. Alors j'y ai découvert un logement totalement insolite. Je sais que vous aimez ça, les logements insolites. Pourquoi est-ce qu'il est insolite?
Oui.
Ben parce qu'il s'agit d'une maison ronde qui offre une vue à 360 degrés et à 62 km. Pourquoi?
Oui.
À 62 km? Parce qu'elle se situe à 165 mètres d'altitude. Donc à 165 mètres d'altitude, depuis la maison, on voit jusqu'à 62 km loin.
Un petit peu plus loin.
Voilà. Alors cette maison porte le doux nom de Beau Soleil. Elle a été construite près du bourg de Courgenard en 1965. Le propriétaire de ce gîte promet encore une déconnexion totale. Pourquoi? Eh bien parce que cette maison n'est pas équipée de Wi-Fi.
Tiens donc.
Et ça, c'est intéressant aussi. Alors là, pour le moment, j'ai vérifié, vous me connaissez, le gîte est complet.
Ah bah
la
oui.
prochaine nuitée de libre, c'est mercredi prochain, le 30 août, 60 euros la nuit. Je réserve ou je
coup.
Réserve pas?
Si,
faut
oui.
réserver.
Bah oui, réservez. Comment ça, pour qu'on aille tous ensemble?
Mais bien sûr.
Ah non.
Ah, c'est grand.
Ah, comment ça, non? Mais si, c'est grand. C'est une grande maison.
Moi, je prends le grand lit. Avant de réserver une petite dernière info, Nicolas.
Mais oui. Est-ce que vous n'êtes pas un peu foufou? Moi, je vous sens un peu foufou.
Un peu foufou.
Ah, je vous sens un peu fou. Je vous sens une âme de Cold Sivers.
Je suis l'homme dans ma vie. Je suis l'homme qui vient de loin.
Bon. Si vous aussi.
Pourquoi vous parlez de Cold Sivers?
Mais parce que je vais vous proposer une activité.
Ah, j'ai pas la référence.
L'homme qui tombe à pic.
Mais Cold Sivers, l'homme qui tombe à pic.
C'est
un cascadeur.
Myers, ça s'appelait
L'Imagers.
Non, mais L'Imagers.
Bon, c'est un cascadeur. Bon, je vous propose donc une activité de cascadeur.
Ah, d'accord.
Toujours dans la gazette L'Action, l'écho, qu'ai-je découvert? J'ai découvert un parc à tyroliennes. Vous savez ce que c'est qu'une tyrolienne?
Tout à fait.
Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas.
Si, bah c'est aussi une tyrolienne.
Oui, mais c'est une chanson tyrolienne. Moi, je vous propose une tyrolienne. Une tyrolienne, c'est un câble suspendu d'une hauteur à une autre qui nous permet de passer d'un point A à un point B en maudissant sa race.
Voilà.
Apparemment,
le point B est souvent plus bas que le point A.
Sinon, c'est difficile.
Oui.
C'est pas facile. Ça s'appelle un télésiège. Quand c'est comme ça. Bref, tout ça pour vous dire que nous sommes à Sillé-le-Guillaume. Et là, vous avez un parc baptisé les Tyroliennes de la Forêt. Il est situé route forestière des Chalets. Et ce parc est composé de 12 parcours entre Tyroliennes et Pont de Singe. Il existe même, tenez-vous bien, et c'est pour ça qu'il faut avoir une âme de Cold Sivers, il existe même deux tracés noirs comme les pistes
comme
de ski.
Comme les pistes de ski. Ah ouais.
Ouais.
Donc c'est très difficile.
Fort, oui, c'est des tracés perchés à 15 mètres de haut pour les plus téméraires d'entre vous. C'est de l'acrobranche extrême pour les acrobranches.
Bah oui. Bah oui, mais
c'est
génial.
Bien sûr qu'on le fait.
Mais ouais.
Mais même pas peur. Et même pas peur non plus de vous retrouver dans quelques instants. Merci Nicolas pour ces informations. Vous restez avec nous. Même pas peur de vous présenter l'association Lire pour en sortir. Alors c'est une association qui permet d'offrir de la lecture aux personnes détenues. Et on va en parler dans cette émission. Dans quelques instants, juste après la pause, on se retrouve sur Europe 1.
C'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
Tous les jours dans cette arrivée près de chez vous, nous vous proposons de mettre en lumière une association ou une initiative positive qui fait bouger les lignes. On va parler de l'association Lire pour s'en sortir, une association qui permet d'offrir de la lecture aux personnes détenues. Et pour nous en parler, la directrice de l'association, rien que ça. Ah bah ici, vraiment, on accueille les directrices. Nous avons Marie-Pierre Lacabara qui est avec nous. Bonjour Marie-Pierre.
Bonjour.
Alors Marie-Pierre, je crois que votre association a été fondée en 2014, donc ça fait quelques années que vous existez. Bon, bah, ma première question, quelle est la vocation de cette association?
Alors la vocation de cette association est de proposer des programmes de lecture, d'écriture des personnes qui sont en détention, puisque lire, écrire et dire, ça fait partie des savoirs de base et qui sont les prérequis à la fois pour un projet de réinsertion sociale et professionnelle dans un milieu pénitentiaire où l'illettrisme est surreprésenté.
Ah ouais, j'allais vous poser la question, c'est quoi le pourcentage?
Alors, on est sur des pourcentages de 30% d'échecs aux tests de lecture des personnes qui rentrent en détention. Chaque personne qui rentre en détention passe des tests organisés par l'éducation nationale qui est présente dans chaque prison. Et donc, voilà, les chiffres sont assez éloquents. Hein. 30% des personnes qui rentrent en prison aujourd'hui échouent à ce test de lecture, avec des pourcentages qui sont surreprésentés sur certains territoires, notamment sur les territoires outre-mer.
Jules, vous avez une question pour Marie-Pierre.
Oui, Marie-Pierre, qui choisit les livres? Et puis, est-ce que ces livres contiennent des messages particuliers?
Alors, on a deux types de propositions à lire pour en sortir. À la fois, on a des propositions d'accompagnement individuel à la lecture. Le principe, il est très simple. C'est une personne détenue qui s'inscrit à ce programme, qui va rencontrer toutes les semaines un bénévole qui va l'accompagner dans un parcours lecture. Et ce parcours lecture, il s'adosse à un livre qu'a choisi la personne détenue dans un catalogue de lecture. Donc, ce catalogue de lecture, il est constitué à peu près de 300 titres. Avec une offre qui se veut accessible, et qui se veut aussi épanouissante, favorisant la connaissance des personnes en détention. C'est l'association qui constitue ce catalogue de lecture, avec à la fois un vaste questionnaire que nous faisons auprès des bénéficiaires détenus lorsque nous renouvelons ce catalogue de lecture tous les deux ans, et puis avec des spécialistes de la lutte contre l'illettrisme, des éditeurs, des auteurs. Donc c'est une offre de lecture effectivement ciblée, même si elle est, si vous consultiez ce catalogue, elle est parfaitement
éclectique,
adéquate à ce qu'on est, à ce que tout le monde a envie de lire, du roman, de la fiction, des BD, des mangas, mais avec des titres choisis spécifiquement pour leur accessibilité.
Maître, vous avez une question pour Marie-Pierre.
Oui, expliquez-moi concrètement comment ça se passe, parce que si la personne donc ne sait pas lire, comment elle fait ses premiers pas avec ce bénévole qui va l'accompagner dans un ouvrage?
Alors la personne, elle sait lire, mais elle est illettrée. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on est illettré en France, ça veut dire qu'on est allé, on a eu une scolarité pendant au moins 5 ans, mais qu'au bout de cette scolarité, on ne comprend pas et on ne maîtrise pas parfaitement la lecture. Donc on n'est pas analphabète.
D'accord.
Analphabète, ça veut dire qu'on ne sait absolument pas décrypter les lettres, ni faire des associations de sons, par exemple. Mais on est illettré. Ça veut dire qu'effectivement, la lecture n'est pas fluide, on ne comprend pas ce qu'on lit, on n'arrive pas à associer les syllabes, les phonèmes. Donc ça, c'est notre public, c'est notre cœur de cible. Et en fait, ce programme d'accompagnement individuel à la lecture, il marche parce qu'on ne se contente pas d'offrir un livre dont la lecture est accessible, on propose un accompagnement toutes les semaines par un bénévole qui est formé par l'association. Et en fait, moi je dis toujours, il suffit pas de mettre un livre, aussi magnifique et accessible soit-il, sur une étagère. Avec notre public, il faut faire de la médiation à la lecture, c'est-à-dire qu'il faut faire avec et accompagner dans la lecture.
Marie-Pierre, beaucoup de questions autour de cette table, cette fois-ci c'est Nicolas.
Oui Marie-Pierre, est-ce qu'il y a des livres interdits? Je pense au Comte de Monte Cristo, très belle histoire d'un homme qui veut s'évader. L'homme au masque de fer, aussi très belle histoire d'un homme en prison. Est-ce que, alors là, c'est de la boutade, bien sûr, lire pour s'évader, on le sait, ça marche.
Bien sûr.
Mais est-ce qu'il y a des livres interdits?
Alors, à notre connaissance, il n'y a pas de livre interdit et le Comte de Monte Cristo est dans notre programme personnalisé de lecture. Donc, vous voyez, et il a beaucoup de succès.
Vous m'étonnez.
Voilà, donc. et donc, aujourd'hui, effectivement, l'association est en convention depuis sa création avec la direction de l'administration pénitentiaire. Et je crois qu'on a parfaitement compris, sans se censurer, ce qui est attendu aussi de l'apport de la littérature et de la connaissance en milieu carcéral. Donc, nous, notre propos n'est pas d'amener des choses clivantes. On amène des romans, des livres qui ont des propos qui interrogent la personne comme tous les sujets qui traversent la société actuellement. Mais aujourd'hui, on a cette grande chance qu'effectivement, quand on constitue ce catalogue de lecture ou quand on propose d'autres activités autour de la littérature, l'administration pénitentiaire ne se mêle absolument pas de ce que nous proposons aux personnes en détention.
Marie-Pierre, nous avons encore beaucoup, beaucoup de questions, mais je vous propose une petite pause musicale. La lecture, c'est bien. La musique aussi, c'est très bien. Elle adoucit les mœurs et les fleurs, c'est bien. Flowers, voici Miley Cyrus sur Europe 1. Bel après-midi à vous.
Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
L'association du jour dans cette émission, c'est Lire pour s'en sortir, une association qui permet d'offrir de la lecture aux personnes détenues. On en parle depuis tout à l'heure avec Marie-Pierre Lacabara, qui est la directrice de l'association. Marie-Pierre, vous nous avez dit tout à l'heure que votre mission, c'était un petit peu de la réinsertion des personnes détenues par la lecture, mais par l'écriture aussi. Et à ce propos, Nicolas, vous aviez une question.
Mais oui, c'était ça. Je voulais en savoir un petit peu plus sur ce volet écriture. Donc, c'est quoi? C'est de l'accompagnement à écrire un premier roman, des poésies?
Ah, carrément, un roman.
Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Les aider, coucher sur papier ce qu'ils ressentent.
C'est vrai qu'il y a eu
une sorte de thérapie.
Alors, non, mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs livres de personnes détenues qui, par la suite, expliquaient leur vie.
Oui, alors si effectivement il y a des écrivains en herbe, y compris en détention, c'est vrai que la prétention de l'association n'est pas, en tout cas, de favoriser cette orientation-là, parce qu'on peut pas garantir que nos auteurs seront édités. Mais par contre, c'est vrai qu'on a beaucoup d'activités autour de l'écriture, et quand notamment je vous parlais du programme personnalisé de lecture, après chaque lecture du livre, la personne détenue est invitée à écrire ce qu'elle a ressenti et ce qu'a suscité la lecture du livre. Donc ça, c'est une première partie, je dirais, d'expression de ses émotions et de ce ressenti par l'écriture. Et puis, nous réalisons aussi des actions collectives et des ateliers d'écriture. Donc là, ce sont des activités qui se font en groupe, souvent menées par des écrivains qui réalisent, pour lire, pour en sortir, des ateliers d'écriture avec là des thématiques ou avec des jeux d'écriture. Donc ça, c'est aussi une première initiation à l'écriture. Et puis, on fait des événements, on faisait référence à des romans ou des livres écrits par des personnes détenues. On a réalisé en 2022 une magnifique aventure avec les éditions Robert Laffont, où des femmes détenues à la prison de Roanne ont travaillé pendant plusieurs mois dans le cadre d'ateliers d'écriture avec des écrivains et qui a donné lieu à un livre qui s'appelle Histoire de femmes. Donc là, c'était vraiment un projet qui était pensé pour un jour être édité et être publié.
Mais parce qu'au-delà du fait d'éditer les livres, ils pourraient, ou elles, ces personnes détenues pourraient écrire et que ça s'adresse aux autres détenus, tout simplement. Il y aurait moyen de faire ça sans partir
Dans certains établissements pénitentiaires, nous réalisons aussi avec les personnes détenues des journaux. La Gazette de la prison de Draguignan. Donc effectivement, l'idée, c'est que les personnes détenues, en tout cas, elles écrivent à tout endroit, destinées à de multiples interlocuteurs. Et j'ai aussi oublié un événement majeur qui va bientôt se réaliser pour notre association, c'est que nous organisons depuis 2020 un concours annuel d'écriture qui s'adresse à toutes les personnes détenues et qui s'adresse aussi au personnel de l'administration pénitentiaire qui travaille dans les prisons où nous sommes partenaires. Et donc, il y a donc un jury qui est présidé par notre marraine Laïla Slimani. Cette année, il aura lieu le 7 septembre à Paris. Et donc, cette année, nous avons reçu à peu près 300 textes de personnes en détention à partir d'un thème que nous leur donnons dans un format court, 5 pages. Et chaque année, donc, nous organisons cette merveilleuse aventure. Et pour la petite histoire, il y a un des lauréats qui est en passe d'être édité, puisqu'il a été repéré par un de nos mécènes, maison d'édition. Et voilà, une aventure un peu inespérée, mais bien sûr que l'écriture est importante. D'abord, l'écriture est très importante en détention. Lire en détention, c'est primordial. Toutes les démarches se font par écrit. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir lire demander un rendez-vous à son médecin. Et comprendre. Et c'est vrai que nous travaillons aussi sur ces outils pour que les personnes en détention améliorent aussi leur autonomie.
Merci beaucoup Marie-Pierre, c'était très 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 intéressant. On avait encore beaucoup beaucoup de questions. Eh bien, on ira voir, j'imagine qu'il y a des sites, il y a moyen de se renseigner sur Lire pour s'en sortir. Et si on a des auditeurs d'Europe 1 qui disent, tiens, moi j'ai envie d'être bénévole et de venir aider dans les ateliers de lecture, rendez-vous sur le site de Lire pour en sortir et sur toutes les plateformes et tous les réseaux sociaux. Merci beaucoup Marie-Pierre, c'était très intéressant et c'est pour cela que nous voulions mettre cette association en lumière. Dans quelques instants, il va prendre la lumière. Il s'agit de Jules. Jules qui est allé farfouiller un petit peu dans ses archives pour nous trouver des informations insolites qui sont arrivées un petit peu partout, mais précisément...
Alors, à Saint-Florent-le-Veil, et j'ai une surprise aussi
et
juste avant.
Une surprise juste avant. Restez avec nous pour cette surprise et le quiz qui s'est passé sur Europe 1.
C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
16h29, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1. Encore deux jours de cette arrivée près de chez vous entre 16h et 18h. Deux jours où nous allons entendre des informations mais totalement dingues. On se dit mais c'est pas possible, dites-moi pas que c'est pas vrai.
Et pourtant.
Et pourtant, des informations insolites, vous en avez à l'appel. Bon, c'est pas bien compliqué, elles peuvent dater d'il y a, même du siècle dernier si on veut.
Tout à fait, si Richelieu nous entend, il peut nous envoyer des infos.
C'est ça, mais vous nous avez parlé d'une surprise là,
mais
juste
oui,
avant.
Parce qu'en tout début de semaine, on a parlé d'un foufou. Mmh. Un gars qui s'appelle Nicolas Sirug, qui a 27 ans et qui monte le mont Poupée dans le Jura, 851 mètres d'altitude, puis il redescend, puis il remonte, puis jusqu'à totaliser 17 000 mètres de dénivelé positif pour parcourir deux fois la hauteur du mont Everest.
De l'Everest.
Oui. Et bien, figurez-vous que je l'ai eu au téléphone.
C'est pas vrai.
Si, j'ai
mais
au
il
téléphone.
Il a pu vous répondre. Il marchait pendant que vous parliez.
Non, c'est en dehors. Il avait terminé sa course. C'est sa maman qui écoute Europe 1. Elle a bien fait, mais elle a appelé pour lui dire qu'il faut nous appeler. Donc, je l'ai eu au téléphone et je lui ai posé des questions. D'abord, je lui ai demandé pourquoi il a fait ça.
Oui, c'est vrai. Parce qu'on se posait la question.
Et donc, il m'a répondu pour me surpasser, me sentir vivant, trouver le mental pour réaliser des exploits et du coup mieux relativiser ensuite les petits obstacles de la vie.
Ah. Pas mal.
Et revenir à l'essentiel, voilà. Et l'essentiel pour lui, c'est boire, manger, pédaler.
Ah, voilà, voilà. Nous, on s'est arrêté à...
Moi, j'avais les 3 B. J'ai les 3 B de la vie. Okay. Boire, bouffer
et
dormir. Je lui ai demandé s'il avait besoin de calmants ou de drogue, parce qu'on il faut se calme, il faut qu'il continue de faire ça. Et il m'a dit non, pas de calmants, pas besoin. Il est réflexologue plantaire et palmaire.
Comme Robert Palmer.
Je pensais que ce serait bien un truc, il allait bien qu'il apprenne celle-ci. Il est donc à Louhans, en Saône-et-Loire, et ça l'aide à récupérer de tous ses mots. Alors allez-y, voilà, il a un cabinet à Louhans, c'est Nicolas Sirug. Et je lui ai aussi demandé son classement, parce qu'il parcourait la course des géants à Annecy ce week-end.
Ah oui, il fallait qu'il fasse plus encore.
Truc. Bah oui, bien sûr. Et alors là, il y a eu 54 participants à sa catégorie, il y a eu 20 abandons, et notre Nico, il a quand même terminé 5e. Donc bravo Nico.
Ah bah bravo Nico, et on embrasse sa maman.
Ouais, et on va quand même lui envoyer une boîte de calmants parce que bon.
Mais non, mais c'est tranquille. Il dort très bien après. D'ailleurs, nous on va s'y mettre, on va marcher. Avant de marcher, qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Florent-le-Vieil, Jules ?
Ah, alors là, nous sommes en novembre 2021 dans le Maine-et-Loire, département qui inspire la fameuse chanson de Michel Delpech. Ma famille habite dans le Maine-et-Loire. Ces gens-là ne font pas de... Oui, non, c'est un autre département.
C'est dans le Loir-et-Cher.
On est dans le 49 à Angers, on n'est pas loin de Nantes. Les Florentais, donc, qui habitent Florent-le-Vieil, ont eu l'agréable et néanmoins insolite surprise de croiser un homme qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Cet homme, c'est Shahin Tivai Sadatoloseini, qu'on appellera par commodité Chacha. Qu'est-ce qu'il faisait Chacha chez les Florentais qu'ils n'oublieront jamais ? Trois possibilités. Petit 1. Chacha est passé à Saint-Flo. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle la ville quand on est du coin ou bien quand on veut éviter de répéter le nom dans une chronique. À Saint-Flo, donc, il est passé, mon Chacha, en tracteur tondeuse. Il a tondu toutes les bordures du village sans rien demander à personne. Et puis pouf, il est reparti comme il est venu en coup de vent. Alors certains ont émis l'hypothèse que Sacha n'avait pas de temps à perdre. Moi je dis que ça se discute quand même. Petit 2, Sacha est passé dans le village. Il est arrivé par l'entrée du village, il n'est reparti par la sortie. Jusqu'ici, on n'est pas dans l'insolite ultra brûlant. Sauf qu'il est passé en roue allemande. Vous voyez ce que c'est la roue allemande ? Vous connaissez un peu le cirque. La Ronrat, ça s'appelle. C'est un peu comme la roue Manpower. Vous voyez le gars Manpower là ?
Oui.
C'est né Monstro comme ça, avec deux cercles. Comme ça, on a la tête en haut, la tête en bas, la tête en haut, la tête en bas. Vous voyez ?
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et les Florentais ont fait une... il est passé, comme ça. Il est rentré, il est reparti. Voilà, les Florentais ont fait une prière pour lui. Alors, petit 3, Sacha est arrivé avec son camion spécial. Il est gentil, ce chat. Il se balade avec son camion de village en village et propose gratuitement des tours dans sa remorque. Attention, qu'il transforme en préalable en manège. Alors, petit 1, donc
le tracteur tondeuse,
petit 2, la roue Manpower, ou petit 3, le manège.
Maître.
Manège, c'est n'importe quoi.
Ah bon,
Oui,
bon, je signale qu'on a eu quelqu'un qui faisait des piscines ici comme ça.
Ouais, c'est vrai.
Ah oui, c'est vrai. La roue, c'est physique. Il ne peut pas traverser un village avec une roue. Il ne peut pas se diriger. Donc, c'est évidemment le tracteur tondeuse.
Évidemment. Mais je trouve ça tellement. Ça a déjà été fait et tout, le tracteur tondeuse. Enfin voilà. Nicolas.
La roue allemande.
Ça me plaît bien. Ouais.
Das Tonne Ronde.
Moi, je pars pour le camion manège.
Eh bien, c'est la roue allemande.
Ah non,
Shine.
Ouais.
Et attendez, vous allez voir. Shine Tivai Sadatone. J'espère ne pas avoir écorché son nom. J'ai un gros doute. A traversé ce village en roulant dans sa roue d'acrobate bizarre. Mais alors, je vous sens bien tous ici, aussi chez vous. Vous avez sûrement cette question qui vous brûle les lèvres.
Pourquoi ?
Bah oui, évidemment. Eh bien, tout simplement parce que Saint-Florent-le-Vieil était sur son chemin. Sacha est parti le 21 juin d'Aix-la-Chapelle en Allemagne. Donc, je vous rappelle qu'on est du côté de Nantes, hein, Angers, là-bas, tout ça. Ouais. Il est parti d'Aix-la-Chapelle en Allemagne. Et là où c'est encore mieux, c'est que quand on lui a demandé où il allait, il a répondu « Wo sind die Verengitenstaaten bitte ?»
Ah oui, d'accord.
C'est par où les États-Unis, s'il vous plaît ?
Ah bon ?
Voilà, le gars va aux États-Unis avec sa roue. Mm-hmm. Voilà. Eh oui, eh oui.
Et à Brest, il a fait comment ?
Ah, ben il est mort.
Il a coulé.
Il est allé jusqu'à Nantes, en fait. Il a pris un bateau. Il est allé jusqu'à... Voilà. Comme Nicolas Sirhug, hein, Sacha ne prend pas ses gouttes le matin, apparemment. Et alors, j'ai encore mieux. Si Sacha relie Aix-la-Chapelle à New York, c'est parce qu'il a déjà rallié l'Iran à l'Allemagne. Sur sa roue bizarre. Voilà. Et là, du coup, arrivé aux USA, il aura rallié ces deux pays, l'Iran et les États-Unis, qui seraient soi-disant ennemis. Voilà, une belle façon, une belle leçon,
belle
je trouve. Voilà, c'est pourquoi j'ai décidé de revendre mon 4x4 et de rentrer à Bruxelles en rondin de bois.
Et ben, pourquoi pas, Jules. On vous retrouve dans la deuxième heure.
Absolument.
Ok, et dans quelques instants, messieurs, attention à votre karma, parce que devoir de vacances avec Clara Léger. On va pas y échapper, mais avant cela, musique avec John Lennon.
Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
Tous les après-midi, encore aujourd'hui et encore demain, avant la rentrée, oui, bien sûr, les devoirs de vacances. On ne peut pas y échapper. Eh bien oui, la maîtresse est là, elle a fait son entrée dans le studio, à savoir Clara Léger, bonjour.
Bonjour Bérénice, bonjour à tous.
Et bonjour maîtresse.
Oui, c'est vrai.
Ils sont polis.
Oui, ils sont polis. Oh, bah dites donc. Et vous allez une fois de plus nous faire découvrir une expression régionale.
Bah oui, c'est l'avant-dernier jour, avant la fin des devoirs de vacances.
Et avant la remise du bulletin.
Oui, faites pas comme si ça vous faisait de la peine, vous avez été débarrassé, je le sais. Je rappelle le principe pour
mais
les auditeurs.
Non, faut dire ça, les garçons.
Ouais, personne n'a enchaîné, c'est pas grave. Je rappelle le principe pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Je vous propose un petit quiz pour deviner le sens d'une expression régionale avec deux propositions de réponse. Une bonne réponse égale un bon point, une mauvaise réponse égale
un mauvais point.
Bravo.
Merci.
Le grand gagnant de la semaine remporte un cadeau que les États-Unis nous envient. Oui, parce qu'aux États-Unis, il y a Beyoncé. Mais nous, dans le studio d'Europe 1 ici, on a Bérénice Bourgueil.
Queen Bibi.
Elles ont les mêmes initiales, ça fonctionne. Bérénice Bourgueil qui a un talent caché, le chant. Mm. Alors cette semaine, je vous offre la compilation des plus grandes chansons de Bérénice Bourgueil.
Et les anges lurent.
Ça n'est pas mis le début.
C'est beau, hein? Non, le début, non.
Attendez.
Non, on ne va pas prendre le début.
Attendez,
non.
Demain. Ouf. Expression du jour. Que signifie l'expression « barrer la porte » ? Est-ce réponse A, emmener en prison, ou réponse B, fermer à clé ?
Barrer la porte ?
Barrer la porte. Oh. Emmener en prison ou fermer à clé ?
Maître.
Bah, fermer à clé, ça me semble normal.
Nicolas ?
Emmener en prison, parce que ça me semble trop simple, barrer la porte.
Oui.
Jules ?
Fermer à clé.
Fermer à clé.
Ouais.
Bérénice ?
Bon, fermer à clé,
oui. Vous avez tous les trois raisons, sauf Nicolas, désolé.
Ça commence bien.
Barrer la porte, ça veut dire fermer la porte à clé. C'est une expression employée dans le Poitou, en Basse-Normandie et dans le Nord-Pas-de-Calais.
Mais pourquoi est-ce qu'on emploie cette expression, Clara ?
Bah parce que barrer la porte, ça veut tout simplement dire se munir d'une barre. Placer cette barre devant la porte ou devant une fenêtre, ça fonctionne aussi, pour empêcher l'ouverture. Mmh. En réalité, bon, ça a un peu évolué aujourd'hui, puisque plus personne ne sécurise son habitation en mettant une barre devant une porte ou une fenêtre. Donc ça veut tout simplement dire maintenant fermer à clé. Donc on peut aussi logiquement dire qu'on barre la porte d'une voiture. Ça marche aussi.
Pardon, moi j'utilise encore une barre
pour certains
volets, certaines portes.
Vous pouvez dire que vous barrez la porte. Oui. Tout est lié au mot barre, puisque le mot clé vient du latin clavis, qui lui-même veut dire une barre. Et pour l'anecdote, dans les mêmes régions où on dit barrer la porte, on ne dit pas une poignée de porte, mais une clenche de porte.
Une clenche de porte.
Chez nous, on dit une clenche.
Ça
a d'autres significations, mais comme ce n'est pas
le mot du jour, on ne saura pas.
Si, on peut vous dire, mais une clenche, c'est
un imbécile.
Ouais, voilà, c'est un idiot, quoi, une clenche.
Clavis, ça donne clavette aussi.
Voilà, super. vous voulez prendre la place
oh
du...
Oh non, j'aime
il,
le latin.
Il veut devenir vizir à la place du vizir. Est-ce qu'il y a d'autres expressions pour le mot bar?
Bah notamment l'expression avoir un coup de barre, puisque quand on dit qu'on a un coup de barre, ce qui désigne, vous savez, le sentiment de fatigue soudain, inattendu, parce que en fait, ça vient quand on reçoit littéralement un coup de barre. On est assommé.
Oui, bah oui, donc, voilà,
on est très fatigué, bien sûr.
Oui. Okay. Ah oui, une barre métallique, oui. Par exemple.
Ah oui,
ça fatigue trop vite.
Je pense qu'on est logique. Je pense qu'on est au-delà de la fatigue. Hein,
oui, oui. Là, oui, je vous explique d'où ça vient. Ça,
bien sûr.
Voilà.
Ça dépend quel est le poids que la barre atteint.
Voilà, voilà.
Merci. Et on peut aussi dire lorsqu'on a une migraine qu'on a une barre au crâne. Donc bref, il y en a plein des expressions avec le mot barre.
Ouais, ouais. Il y a aussi, tiens, tu me retrouveras au bar.
Oui, ça, c'est pas le même bar, mais ça fonctionne.
D'accord.
Et
ça,
on dit d'une personne qu'elle est barrée aussi.
Oui.
Oui.
Et la chute, elle est où?
Ah bon, non, c'était juste,
j'étais
pour apprendre.
Il faut nous prévenir.
Faut nous prévenir, on donnait maître.
Moi, j'avais clavette, il avait son barré. Voilà.
Voilà. Super. Maîtresse, vous avez compté les points.
Absolument.
Bien sûr, Clara,
verdict
on vous retrouve
demain.
Ben oui, on vous retrouve demain pour cette fameuse compile dont je suis tellement fière. Et avec une nouvelle expression régionale.
Absolument.
Aussi. Allez, restez avec nous, ça va être le moment de jouer pour tenter de gagner un panier garni de produits locaux de nos régions dans un premier temps. On va jouer au quiz des régions avec Maître Galibert. A tout de suite sur Europe 1.
C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
Tous les jours de l'été, à savoir jusqu'à demain, 16h-18h, avec le quiz des régions tous les jours qui vous permettra demain, lors du grand tirage au sort, de remporter un an de vacances. Oui, je dis bien un an de vacances. Il n'est pas trop tard, hein. Vous pouvez envoyer un SMS. Vous envoyez le mot-clé région au 739-21, 75 centimes plus le coût d'un SMS, suivi de votre prénom, de votre numéro de téléphone, et que vous jouiez ou non avec nous. Mais si vous avez envoyé un seul SMS, ça peut suffire. 4 semaines de vacances pour 4 personnes à bord d'un bateau de location Le Boat. C'est ce que nous allons vous offrir demain, leboat.fr. Ça, c'est l'adresse pour déjà vous faire rêver. Avant de rêver, il va falloir travailler. Et donc, nous, ici en studio, maître, nous allons devoir trouver une ville, avant cela un département, avant cela une région.
Alors, cette région, bon, là, on arrive à la fin de l'été. J'espère que vous avez bien révisé. Vous allez tout de suite l'identifier.
Bien sûr.
Bordeaux, Limoges, Poitiers et Pau font partie de cette région.
Nouvelle-Aquitaine,
bravo. Alors, on va réviser un petit peu la Nouvelle-Aquitaine avec le jeu du pouet-pouet. Je rappelle les règles du jeu du pouet-pouet. je donne une phrase et à la place d'un mot, il y a le fameux... Exemple, Nicolas, aujourd'hui n'est pas trop...
Pouet-pouet.
Voilà. En revanche, Jules est complètement...
débile.
Quant à Bérénice, elle reste...
charmante.
Voilà, vous avez tout compris. Alors, la dernière fois qu'on a joué au jeu du pouet-pouet en début de semaine, vous n'avez pas été sérieux.
Non.
Je vous demande une bonne concentration, s'il vous plaît.
Si, Jules, il est toujours très premier degré. Bah, moi, il va, jeu du pouet-pouet.
La gagne. On est toujours sérieux, qu'est-ce que vous racontez ?
On n'est pas là pour rigoler, je vous le rappelle.
C'est vrai.
Sur la Nouvelle-Aquitaine, cette région Nouvelle-Aquitaine est bordée par...
Par la mer...
L'océan. Voilà.
L'océan lequel?
Atlantique.
Bon, voilà, ça, quand même. Bah, oui, celui que vous voulez. Hein.
Elle est séparée de l'Espagne par la chaîne des
Pyrénées. Triste. Mais s'ils sont séparés, c'est triste.
Ça pas la Pyrénée Atlantique, par hasard?
Les Pyrénées Atlantiques.
Pas la chaîne des Pyrénées.
Mais la chaîne des Pyrénées. La chaîne des Pyrénées Atlantiques, c'est un département.
Le développement. Le département qu'on cherche.
On cherche pas un département, on joue avec la Nouvelle-Aquitaine.
Et vous voulez pas chercher vos mots,
Jules? Pardon. En Gironde, on peut apprécier le magnifique bassin...
d'Arcachon.
Bien. Et l'imposante dune
du Pila.
Pilou.
Du Pila, du haut de ses...
60 ans.
C'est 82 marches.
Et non.
60
mètres.
250 mètres.
Non, elle fait 104. 104 mètres.
Elle se tasse
d'année en année, mais là...
Par coup de vent...
C'est l'âge, ouais. Ça c'est l'âge, ouais, moi aussi. Ouais.
Hein. Dans les Landes, là... est omniprésente.
La
forêt.
Mais oui, bien sûr, la forêt. En Charente-Maritime, le vieux port de...
Oh, bah, je vous en prie.
Le vieux port...
d'Amsterdam.
Mais non, de La Rochelle.
Ah,
La Rochelle. Est une magnifique carte postale et cette région se déploie jusqu'à la Creuse. Et là...
La
Corrèze. C'est pas possible. Bon, on va s'arrêter dans le département de la Charente et le nom de cette ville est naturellement associé à une eau-de-vie de vin. Il s'agit de la ville de...
Vin.
De Cognac.
Très bien. Mais on est nul.
Ah ben oui.
Cognac, c'est la ville avec laquelle vous allez jouer. On vous retrouve dans quelques instants. Avant cela, Adé et Insomnie sur Europe 1. Adé sur Europe 1 avec Insomnie. Et bien justement, sur Europe 1, vous êtes attendus, vous, chers auditeurs. Europe 1 vous donne rendez-vous lundi pour bien démarrer la rentrée. Et vous allez retrouver Ondelat raconte, avec Christophe Ondelat, bien sûr. Nouvel horaire, attention, notez-le, de 14h à 15h, avec de nouvelles histoires, des inédits, des faits divers, des affaires criminelles, des portraits de personnalités. Christophe Ondelat raconte sur Europe 1 les histoires qui ont marqué les Français et les dissèque avec ses invités. Dissèque les histoires, bien sûr, et pas les Français. Famille de victimes.
Mais c'est pour les prochaines émissions. Vous me posez la question. Vous imaginez,
c'est bizarre. C'est pour les émissions prochaines, ça.
Vous imaginez l'annonce. Christophe Ondelat dissèque les Français. Bref. Famille de victimes ou accusés, juges, avocats, biographes. Bref, je sais que vous attendez le retour de Christophe Ondelat de Ondelat Raconte. Eh bien, rendez-vous lundi à partir de 14h sur Europe 1.
C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
Bien, nous allons à Cognac. Cognac, qui n'est pas une ville de vin, maître.
D'eau de vie de vin.
D'eau de vie de vin. C'est joli à dire,
vite. Oui, d'eau de vie de vin.
D'eau de vie de vin. Qui va s'attabler avec nous pour goûter cette eau de vie de vin? C'est Michel. Bonjour Michel.
Bonjour Michel.
Ah, oui. C'est un petit bonjour,
c'est du petit bonjour, ça, Michel.
C'est du bonjour timide.
C'est du bonjour rounet. Hein. C'est timide, c'est de l'angoisse. Michel, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous détendre? Une blague, une histoire, une chanson? Allez-y. Hein.
Allez, une blague.
Michel.
Elle a demandé une blague.
Oui.
Alors, qui a une blague?
J'ai pas de blague. C'est la mère Michel qui a perdu son chat.
Ok, ça, c'est pas drôle.
Ah, ouais. Pardon. Ah,
non. Là, Michel, elle est partie. Là elle, parce que ça fait 250 fois qu'on lui fait. L'eau de vie de vin, vous connaissez? Vous aimez le cognac?
Oui, j'aime bien.
Bon, voilà, vous connaissez la ville?
Pas du tout.
Ah! Bon, au revoir Michel.
C'est ça.
Mais non, restez avec nous. Vous le savez, même si on ne connaît pas parfois sur un malentendu, ça peut passer.
Exactement.
Je vous rappelle qu'il y a 4 questions. Vous pouvez amasser 10 points maximum. Allez-y, on est là pour s'amuser. Michel, écoutez-moi. De toute façon, vous allez gagner des cadeaux. De toute façon. Ok, on est entre nous. Personne d'autre nous entend. Michel, je vous laisse en compagnie de Maître Galibert.
Donc, question numéro 1, 1 point, c'est un vrai ou faux. Question numéro 2, 2 propositions de réponse, 2 points, etc. etc.
D'accord.
Michel, l'origine du nom Cognac remonterait à un personnage gallo-romain, Conius. Vrai ou faux?
Vrai.
Oui, c'est vrai. Dérivé de Conus, nom gaulois, auquel est apposé le suffixe acum, qui donc correspond...
Donc ça, c'est un des 7 nains de Blanche-Neige.
Ouais,
un coup.
Bien sûr. Donc. Tout ça, donc, cognac, signifie le domaine de Conius. Question numéro 2. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît.
Pardon.
Pendant son vieillissement, le cognac, Michel, prend le meilleur du chêne pour révéler ses arômes les plus subtils. En contact permanent avec l'air, l'eau de vie perd progressivement sa force en alcool et gagne en finesse et élégance. Cette évaporation de l'alcool dans l'atmosphère est très poétiquement nommée petit a, la part des anges, petit b, la goutte du bon Dieu.
Petit a,
la part
c'est
des
la bonne
anges.
Réponse.
Elle représente, vous êtes bien assis, elle représente l'équivalent de plus de 20 millions de bouteilles par an qui s'évanouissent dans la nature.
Mais non,
mais oui.
Ah, c'est pour les
énorme.
Anges.
Et c'est pour les anges,
ils
c'est pour
le
les anges, c'est pour les anges.
De s'amuser.
Parcours parfait pour l'instant Michel, mais tout peut arriver.
Mais enfin,
question numéro 3. Cognac possède son festival. S'agit-il petit a du festival du polar, petit b du festival des jeunes humoristes, petit c du festival du feu d'artifice?
B.
Vous dites
B.
Les jeunes humoristes? Ah non, vous l'aviez, Bernice, vous l'aviez, je crois. Hein.
Oui, c'est le polar.
C'est le festival du polar. Et oui, et oui, et oui, et oui. Bon.
Et alors, Michel, quand elle n'est pas sûre d'elle, elle parle encore plus doucement.
Oui.
Petit B. Bon, 3 points pour le moment.
4e question.
Oui.
Michel, parmi ces 4 François, lequel n'est pas né ici en Charente?
Oh là là. Mais c'est compliqué ces questions, mais vous m'énervez avec ces questions.
C'est très simple.
Okay,
je vous donne 4 François, il y en a un qui n'est pas charentais, c'est pas compliqué.
Ok, d'accord.
Petit A, François 1er.
Oui.
Petit B, François Mitterrand. Petit C, François Hollande.
Oui.
Petit D, François Gabart, le navigateur. Parmi ces 4 François, lequel n'est pas né ici en Charente?
Bah, le A, le premier.
Mais non, François Ier était né à Cognac.
Aïe.
Le président François Mitterrand était né à Jarnac, à 15 km de Cognac. Le navigateur François Gabart est effectivement charentais. C'est le président François Hollande qui est né à Rouen.
À Rouen.
Aïe, quelle catastrophe.
Non, c'est pas une catastrophe.
Non, mais c'est pas très très bon non plus.
Mais non, mais arrêtez de dire ça. Ouais, voilà. Elle n'en peut plus, Michel, parce qu'en fait...
Des années.
C'est la première fois qu'on vous fait ça, Michel. Oui, elle dit
elle
oui, que le mignon, Michel. C'est la première fois sur Europe 1 à 16h57. Ça, je vous l'accorde. Trois points. N'écoutez pas ce que dit Maître Galibert. Je ne sais pas, il est mauvais aujourd'hui. Vraiment, il est mauvais. Trois points.
Bah là, trois points. Vous voyez quand même que trois points, c'est pas...
Non, c'est pas non plus.
Voilà.
Bon, c'est vrai, Michel, c'est pas terrible.
Non, mais... C'est vrai,
mais si ça se trouve, le prochain ou la prochaine fera même moins bien que vous, parce que ça, c'est possible. On se retrouve lors de la deuxième heure pour le deuxième quiz des régions. À tout à l'heure, Michel. Et quant à nous, on se retrouve dans quelques instants après les infos sur Europe 1.
Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
Bienvenue à vous, si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, deuxième heure de cette arrivée près de chez vous. Je vous le disais, nous sommes ensemble jusqu'à 18h avec la possibilité pour vous de remporter, pourquoi pas, juste comme ça, un an de vacances.
Mais c'est
comme ça, voilà. Un an de vacances, 4 semaines pour 4 personnes à bord d'un bateau, le Boat. Ça, ce sera pour demain le grand tirage au sort. Et si vous voulez y participer, vous envoyez dès à présent un SMS qui est le suivant, le mot région, tout simplement. Région au 739 21 75 centimes plus le coût d'un SMS, vous le suivez de votre prénom et de votre numéro de téléphone. Vous pouvez le poursuivre aussi. Hein. Avec Nicolas Beutars qui est toujours avec nous, nous allons découvrir toutes les anecdotes de tournage de films. Mais de quel film s'agit-il ?
Un film culte, mais vraiment culte. Bah, franchement, si vous ne l'avez pas vu, c'est que vous n'avez pas d'âme.
Voilà, comme tous les jours.
Oui, en fait, c'est le problème.
Notre bon plan du jour va nous emmener dans le village qui compte plus de rosiers que d'habitants. Et je ne vous dis pas quel est le village. On fera un petit détour avec Ludovic Lesboeur, bien sûr, que nous suivons tous les jours pour son défi de dépolluer les routes entre Paris et Marseille. Le quiz qui s'est passé avec vous, Jules Bernard Leblon.
Nous partirons à Blanguy-le-Château.
Eh bien, très bien, c'est ce que je voulais savoir. Maître Galibert, le quiz des régions, nous allons...
Je vous regarderai du haut des remparts.
Il y a quelques remparts un petit peu partout en France. Nous découvrirons tout cela ensemble dans la deuxième partie de cette arrivée près de chez vous sur Europe 1.
Bérénice Bourgueil sur Europe 1, proche de chez vous et près de chez vous.
Cinéma ! Cinéma ! Oui, je sors, qui je suis ? Je suis cinéma !
C'est l'heure d'aller au cinéma. C'est arrivé près de chez vous. Dans cette émission, Nicolas ne fait pas que lire la presse locale pour apprendre ce qui est arrivé justement près de chez vous. Non, il va aussi au cinéma pour apprendre ce qui a été filmé depuis chez vous. Alors Nicolas, vous nous emmenez voir quel film tourné dans quelle région ?
Mais je vous emmène surtout sur les traces du Mexicain. Et nous sommes poursuivis par les frères Volfoni.
Mais heureusement,
nous sommes sous la protection de Fernand Naudin. Un Fernand toujours prêt à souhaiter un joyeux anniversaire avec une certaine poigne.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Vous l'avez reconnu,
cette
mélodie.
Les Tontons Flingueurs,
le film de Georges Lautner sorti en 1963 avec la crème du cinéma français de l'époque, Lino Ventura, vous venez de l'entendre, Jean Lefebvre, Francis Blanche et le tout jeune Claude Richetien. Mais il n'y a pas que, il y a aussi Bernard Blier, alias Raoul Volfoni. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez Raoul ?
Ah oui, t'as déjà vu ça ? En pleine paix. Il chante et puis craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou, ce mec.
Mais moi, les dingues, je les soigne.
On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts à son puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile.
Eh ben oui. Je crois qu'on a bien saisi qui était Raoul. Hein,
oh, c'est magnifique. C'est ben magnifique. Oui. Cette tirade est magnifique.
Ça marche encore. Alors, les tontons flingueurs racontent comment quelques tontons qui tirent d'abord hein, et puis qui parlementent ensuite, bah, se font la guerre. Se font la guerre pourquoi ? Pour s'attribuer l'empire d'un des plus grands mafieux de l'Hexagone, le fameux Mexicain. Un Mexicain qui, avant de mourir, a quand même demandé à son meilleur ami c'est Fernand, de prendre soin de sa fille Patricia. La dite Patricia étant amoureuse d'un certain Antoine. Et Antoine, il a le don d'agacer, la preuve.
Patricia, mon petit, je ne voudrais pas te paraître vieux jeune et encore moins grossier. L'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois. Mais la vérité m'oblige à te le dire, ton Antoine commence à me les briser.
Voilà, je pense que c'est clair.
Là, c'est clair.
Là, c'est clair. Mais c'est vrai qu'il est
un peu agaçant, le Antoine. Le Antoine, c'est
oui.
Claude Riche.
Ah, il est magnifique. Mmh,
parfait dans ce film. Bref, ce film, il a été tourné en grande partie à Paris, mais également dans plusieurs départements d'Île-de-France. Et parmi les nombreuses activités du Mexicain, il y a un bowling.
Ah oui.
Et plusieurs scènes, on a plusieurs scènes dans ce film tournées un bowling. Bowling qui servait de couverture à plusieurs trafics pour le Mexicain. Petite ambiance.
Et le Mexicain, ça a été une épée, un cador. Moi, je suis objectif, on parlera encore de lui dans 100 ans. Seulement, faut bien reconnaître qu'il avait décliné, surtout de la tête.
Ah, ça, c'est la boule. Strike !
Ouais, strike, c'était l'ambiance bowling. Alors, ce bowling, c'est le bowling de la Matène. Il a été construit en 1961 et il se situe à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne. Ce bowling, c'est une star de cinéma. On y a tourné Jean-Philippe avec Johnny et Fabrice Lucchini.
Ah,
c'est le même bowling.
Ah, oui.
On y a aussi tourné Monsieur Hir avec Michel Blanc. Mm-hmm. Et on a encore tourné dans ce bowling Les Nouveaux Chevaliers du Ciel. Ça, c'était la série, non pas l'original, mais la
les
nouvelle
nouveaux.
Version, Les Nouveaux, hein, d'où le titre Les Nouveaux Chevaliers du Ciel. C'était dans les années 80. Allez, autre scène culte, bien entendu. Comment ne pas évoquer les tontons flingueurs sans cette scène ?
Il faut reconnaître. C'est du brutal.
Vous avez raison. Il est curieux, hein?
J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme.
Bon, le vitriol, comme on dit dans cette scène. Alors, c'est dans une maison louée par la production à Ruelle Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, que cette scène de la cuisine a été tournée. Nous étions le 29 avril 1963. Une scène que Michel Audiard, qui a donc scénarisé, dialogué cet excellent film, trouvait inutile
et vrai.
Qui a bien failli ne jamais exister. Alors que c'est peut-être la scène du film. Et en parlant d'existence, malheureusement, cet hôtel particulier, il a été rasé depuis. Allez, une dernière scène, c'est quasi la scène de fin, le face-à-face entre Fernand et ses hommes, opposé au réel méchant de cette histoire.
Qu'est-ce que je vois là ? Ça ?
Eh, hey, je l'avais pris en cas qu'il aurait fallu tirer en rafale, des fois qu'ils seraient tous sortis d'un coup. Ta-ta-ta-ta-ta ! Hop !
C'est marrant que t'aies gardé ce côté maquisard.
T'es pas en âge d'arrêter, t'es mon mari.
Bon, alors c'est fini, oui, puisque je vous dis que je suis pressé, hein ?
T'es pas en âge d'arrêter ces momeries. C'est joli, ça, une momerie. Bref, cette scène, elle a été tournée dans la briqueterie de Feucherolles, dans les Yvelines, à 17 km au nord-ouest de Versailles. Alors, cette briqueterie a cessé son activité en 1953. C'est devenu ensuite une papeterie. Et aujourd'hui, elle a été réaménagée en pépinière d'entreprise. Alors, on n'y trouve pas d'arbres hein, dans cette pépinière d'entreprise. Une pépinière d'entreprise, c'est un hub, comme on dit. Vous savez ce que c'est un hub, c'est 12 000 mètres carrés de bureaux équipés d'ateliers d'artistes, le tout dans une ambiance chaleureuse, conviviale et collaborative qui promet en tout cas le site internet des lieux. Bref, pas de quoi flinguer ni tonton, ni concurrence.
Je suis sûr qu'on peut l'avoir en sonnerie de téléphone.
Musique. Cette musique, elle est déclinée tout le long du film en différents types d'arrangements. C'est génial. Voilà.
Elle va bien nous rester dans la tête. Dites donc, les garçons, j'ai envie de vous offrir des fleurs.
Oh.
Et ouais, c'est le bon plan du jour. On va partir dans le village qui compte plus de rosiers que d'habitants. Ça doit sentir bon là-bas, contrairement à d'autres endroits que je ne citerai pas. Allez, à tout de suite sur Europe 1.
C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
C'est arrivé près de chez vous. Vous le savez, dans cette émission, il y a le quiz des régions. Alors, je vais faire le quiz des régions. C'est une région au centre.
Une région au centre, ben c'est la région centre, Val-de-Loire.
Eh ben voilà, le département, c'est le 37.
Ben le 37, c'est l'Indre-et-Loire.
Plus vite, plus vite.
Pardon,
plus
oui,
vite.
Il faut lire plus vite, Maître Galibert.
Et on va parler de Chédigny, parce que voilà, vous êtes trop nuls, vous allez mettre des plombs à trouver la ville. À Chédigny. Ah, Chédigny, le village qui compte plus de rosiers que d'habitants.
Ça,
pour nous en parler, celui qui a été maire de Chédigny de 1977 à 2017 et qui est à l'origine du projet de végétalisation à partir de 1998, c'est Pierre Louhot. Bonjour Pierre.
Bérénice, bonjour.
Soyez le bienvenu Pierre. Alors Chédigny, c'est quoi cette histoire de village qui compte plus de rosiers que d'habitants? Ça intrigue, on a envie de savoir. D'où vous est venue l'idée?
Eh bien, tout simplement, on avait terminé des travaux d'enfouissement des réseaux d'électricité. Enfin, c'était l'époque où on enfouissait tout et le village était devenu un peu verdun. Il fallait refaire la rue. Et à ce moment-là, on s'est dit, ben, pourquoi pas? C'est un village qui n'avait pas beaucoup d'âme, même pas un monument inscrit ou classé. Et on a dit, pour redonner un peu d'allure, on va planter des rosiers. Et on a sollicité Andréev, qui est celui qui a rétabli les roses anciennes en France. Et Andréev est venu une première fois nous proposer les plantations pour une centaine de rosiers. Ça a été le départ d'une aventure qui a transformé, qui finira par transformer le village en jardin remarquable.
Mais alors ces rosiers, vous les avez plantés dans les jardins publics, dans les parcs, chez les particuliers?
Non, devant, sur les façades des maisons. C'est-à-dire que la rue est plantée de rosiers. Enfin, aujourd'hui, on a plus de 1000 rosiers. Et je dirais que sur les 1000, il y en a 700 ou 800 qui sont dans la rue du village, qui s'allonge. Il a une rue principale, 3 ou 4 rues secondaires, qui sont plantées de rosiers, et ceci depuis 99-2000. Enfin, ça s'est fait un peu progressivement.
Maître, vous avez une question pour Pierre.
Oui, alors Pierre, j'ai pas du tout la main verte. Un rosier, ça fleurit tout au long de l'année ou c'est par période?
Ça dépend lesquels, j'imagine.
Ça dépend.
Expliquez-nous, Pierre.
Alors, il y a les rosiers lianes qui, eux, ne fleurissent qu'une fois. En général, ils ont une végétation très abondante. Et puis ensuite, il y a les rosiers grimpants. Dans les grimpants, il y a des non-remontants, mais une majorité, je dirais, sont des rosiers remontants. Il faut en prendre soin, il faut couper les fleurs fanées, il faut leur donner un peu à boire et à manger dans le courant de l'été. Et ces rosiers, certains ont une floraison quasi continue.
D'accord.
Et puis après, il y a aussi des rosiers nains qui sont beaucoup plus bas, en gros, qui font entre 50 et 2 mètres de hauteur les arbustes.
Moi, je trouve ça génial. Est-ce que ça a permis de développer de l'emploi pour des personnes, des jardiniers qui doivent s'en occuper? Ou alors, est-ce que tous les habitants de Chédigny s'occupent eux-mêmes des rosiers?
Non. Alors, au départ, c'était les habitants qui s'en occupaient. Mm-hmm. Et puis, ils n'avaient pas tous la main verte. Ah, donc, il faut savoir tailler un rosier.
Il y a eu quelques décès chez les rosiers.
ou des manques de floraison parce qu'ils étaient coupés au mauvais moment. Et puis, il y avait une employée communale qui aimait bien le jardin. Et progressivement, on est passé d'une employée communale à aujourd'hui 3 et demi, c'est-à-dire qu'on a pratiquement 3 jardiniers pour s'occuper de cela. Mais les habitants, il y a aussi des jardins privés qui sont extraordinaires et qu'on voit de la rue.
Pierre, Nicolas a une question à vous poser sur ces fameux rosiers de Chédigny.
Mais oui, Pierre, vous nous le disiez, il n'y avait pas de monument. Pas de monument remarquable, rien à voir. Aujourd'hui, c'est le village qui est devenu un monument. Il y a des touristes qui viennent expressément voir vos rosiers.
Oui, alors les premières années, on avait fait ça pour les habitants de Chédigny. L'idée, c'était de redonner la rue aux habitants. Et donc, on a dévié les camions, on a dévié les voitures qui n'avaient rien à faire dans le village. On a régulé le stationnement. Et aujourd'hui, depuis 10 ans, oui, juste 10 ans, on a obtenu du ministère de la Culture le label Jardin Remarquable. Et pendant 10 ans, on a été le seul village en France, parce qu'il y a des rosiers, mais il y a des milliers de plantes vivaces qui prennent le relais quand les rosiers défleurissent. Il y a des hydrangeas, il y a une multitude de plantes vivaces qui fait que c'est un vrai jardin fleuri.
Pierre,
avez-vous créé une rose ?
Personnellement, allez, on va dire que oui, elle s'appelle Petite Coquine de Chédigny.
Oh
et,
c'est la,
et le parrain, c'est Andréev qui a donné le nom de baptême. C'est un semis naturel, c'est-à-dire que les rosiers donnent des fruits, les abeilles vont de fleur en fleur butine, et on garde une multitude de petits rosiers, et de temps en temps, et on a un miracle, c'est-à-dire un semis naturel. La Petite Coquine est un semis naturel.
Et bien justement, dernière question, très rapidement, Pierre, mais j'ai envie de savoir, est-ce qu'en tant qu'habitant, habitante de Chédigny, on peut se faire des bouquets? On peut couper
Non, on ne coupe pas. On a un petit espace, on a un espace bouquetier, mais qui est un peu à l'écart parce que c'est un peu compliqué. Non, on ne prend pas nos roses pour repartir avec. Vous prenez le parfum des roses autant que vous voudrez, mais pas les roses.
Écoutez, Pierre, j'espère que parmi les auditeurs d'Europe 1, il y a peut-être quelques maires de certains villages qui disent « bonne idée, en plus c'est beau, ça sent bon, ça ramène la vie, ça ramène plein de choses, vous le disiez, les abeilles plus plein d'autres plantes, et c'est très important, surtout à l'époque à laquelle on vit. » Super belle initiative, très bon plan. Donc si vous allez dans la région Centre-Val de Loire, si vous passez par là, vous allez dans le département 37 à Chédigny, vous vous arrêtez dans ce magnifique village. Merci Pierre, belle journée à vous. Restez avec nous parce que des roses, on va passer aux déchets. Voilà, c'est très joli les roses et puis les déchets que vous laissez sur la route. C'est Ludovic. Ludovic, notre éboueur que nous suivons tous les jours depuis le 1er août. On va prendre de ses nouvelles. Avant cela, on va tous au Club Tropicana parce qu'à un moment donné, c'est bon. Et boisson pour tout le monde.
Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
Je suis le médecin des rues, fier de faire mon job chaque jour.
Le médecin des rues, celui qui soigne les rues, celui qui ramasse tout. Ah, il faut bien le dire, nos déchets. Chez Monio, oui, honte sur nous parce que nous tous, on va s'englober. Malheureusement, ce n'est plus possible. Il faut arrêter de jeter ces détritus partout, par terre. Alors, Ludovic, bonjour.
Bonjour à vous et bonjour à tous.
Ah oui, il est très solennel.
Bonjour Ludovic.
Ludovic, comment ça va? Où êtes-vous? Que faites-vous? Et qu'avez-vous?
Alors, nous sommes arrivés à Saint-Martin-d'Estréau et justement, j'attendais l'interview pour pouvoir aller voir le maire juste après vous, monsieur le maire. Et en fait, aujourd'hui, il a fait ultra méga chaud et nous sommes en alerte rouge. Donc pour le coup, on a dû aménager l'étape. On a fait la moitié de la journée et ensuite, on a dépollué une aire de repos et nous sommes tombés, écoutez-moi bien, sur plus de 10 filtres à voiture avec plein d'huile.
Une horreur.
Mais pourquoi
c'est encore sur les mains.
Pourquoi les gens font ça? Il y a des endroits pour faire ça.
C'est affolant.
Mais oui, c'est affolant.
Est-ce que c'est payant, ces endroits, normalement, pour déposer ces déchets?
Non. Je pense que dans la déchetterie, non, il me semble qu'on peut le déposer gratuitement.
Mais non, mais c'est pas une question d'argent, c'est parce que les gens sont fainéants.
Oh là là.
Mais attendez, j'ai pas fini. On a ramassé plus de 300 bouteilles remplies de pipi.
Laisser un petit peu sans voix. C'est-à-dire qu'on est dans la voiture. Ça, je suis désolée. Je suis désolée. Mais ça, c'est exclusivement les hommes. Parce que je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Donc, j'ai déjà essayé dans une bouteille.
On veut pas savoir.
Ça ne marche pas. Tout à côté. Mais pris dans les embouteillages, pas le temps et tout. Une bouteille vide, hop. Alors,
mais il n'y a pas des toilettes sur cette aire de repos, Ludovic?
Il y a des toilettes sûrement, mais pas sur celle-ci. Mais bon, dans tous les cas, ils peuvent s'arrêter. Pour les hommes, en tout cas, ils peuvent s'arrêter, se mettre debout, vous savez, comme on fait.
Ouais,
voilà.
Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas faire pipi non plus partout.
Non.
Il faut aller dans des toilettes, donc c'est un peu compliqué.
Exactement.
Ah, mais mon pauvre. Là, vous allez être reçu par le maire donc, de Saint-Martin-d'Estréau, c'est ça?
Exactement. Et demain, nous sommes de repos.
Demain, de repos? Ah bah oui, mais non, hein, Ludovic, à un moment donné, il faut... non, je plaisante, mais évidemment, vous méritez votre repos. Eh ben, on prendra le temps quand même de discuter avec vous, de faire un petit peu le point de cette première partie du voyage. On continuera évidemment à vous soutenir ici sur Europe 1. Et puis vous qui nous écoutez, allez sur les réseaux sociaux.
Merci.
Et franchement, c'est pour notre planète. C'est nous qui vivons sur cette planète. Donc prenons soin d'elle. Et vous prenez soin de vous, Ludovic.
Si, merci.
Embrassez le maire pour nous, c'est toujours bien.
Avec grand plaisir.
C'est toujours bien. Allez, Jules, dans quelques instants, vous êtes allé farfouiller vous aussi dans les poubelles comme Ludovic. C'est pas des bouteilles avec des trucs dedans. Ah, quoique, peut-être parfois des informations, des bouteilles lancées à la mer.
Aujourd'hui, ça sent pas bon en tout cas.
Ça sent pas bon non plus ? Non. Ok, super, c'est génial. En tout cas, ça donne envie. Restez avec nous. 17h26, on fait une pause et on se retrouve sur Europe 1.
Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
Un bikini rouge et jaune à petit pois. Un, deux, trois, savez-vous ce qui arrive?
Oh, il l'a fait.
Je crois pas, on m'a coupé le micro. Et bien écoutez, j'ai
micro,
été censuré. Et bien je peux vous dire une chose, je quitte cette émission. Je vous dis au revoir. Je m'en vais. C'est un scandale. Retenez-moi.
Non, sûrement pas. Alors, revenez.
Puisque vous insistez, je reviens.
Voilà, asseyez-vous et taisez-vous. C'est autour de Jules. Jules, un passionné d'information. Bon, on va essayer de rendre ça un petit peu plus glamour parce que juste avant la pause, on disait que ça sentait pas bon. En fait, vous allez dégoter des informations qui ne sont pas survenues aujourd'hui, matin même, il y a un petit peu de temps. Mais surtout, elles sont insolites. À nous de trouver parmi les trois propositions que vous allez nous faire, laquelle est véridique. Quiz qui s'est passé à Faisin.
Ah, qui a déjà pris... Faisin, donc c'est le Rhône.
Oui.
Qui a déjà pris son automobile pour rejoindre la Côte d'Azur via Lyon par le fameux tunnel de Fourvière a forcément battu les routes de Faisin, cette petite ville qui longe l'A7 donc en direction des vacances. Et à Faisin, ce matin-là, dans les rues, une odeur particulière taquine les narines faisinoises. Quiz, que c'est que cette fragrance? Petit 1. Une odeur envahit les rues à Faisin. D'où vient-elle? La raffinerie de Faisin a connu un petit incident ces derniers jours et la flamme de la grande torchère qui brûle habituellement du SO2, dioxyde de soufre, ou du NaO, monoxyde d'azote, ne brûle pas les bons mélanges. Ce bon mélange qui emplit normalement la ville de cette odeur d'œuf pourri, qui fait plafonner le prix du mètre carré à 14 euros dans le coin d'ailleurs. Mais là, si l'odeur dérange les habitants, c'est que d'un coup, ça sent bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh oui, dans tout le coin, à cause d'un problème de mélange, ça sent la choucroute.
Oh, je sais pas si c'est
mieux. Ça sent bon, ça sent la choucroute.
Bien sûr que ça sent bon, mais c'est pour ça que ça choque les gens. Ils n'ont pas l'habitude. Petit 2. Ce matin du 6 novembre, car c'est un 6 novembre, Janine se lève et sent une odeur particulière. Ça sent le bouc. Étrange, son adolescent est pourtant déjà parti à l'école. Elle en a la certitude. Elle enquête jusqu'à sortir le nez dehors. Et là, devant sa porte, la regardant droit dans les yeux comme pour lui dire « Bien ou bien ?» Un bouc la fixe, tourne les talons, enfin
les sabots,
et repart. Cette vision, Janine ne l'oubliera jamais. Voilà, petit 3, à deux pas de là, sur la 7, une remorque citerne destinée à la parfumerie Fragonard à Grasse vient de s'échouer sur le flanc, laissant s'échapper 30 000 litres d'un précieux parfum aux senteurs d'agrumes et de pommes qui embaumera la ville durant 2 semaines. Se mélangeant aux odeurs soufrées de la raffinerie, elle imprégnera durablement la population jusque dans sa chair. Encore aujourd'hui, si tu croises un gars qui a l'air d'avoir bouffé une compote depuis le fond d'un volcan en activité, c'est un gars de Faisin. Alors, petit 1.
Ouais, ça sent la choucroute.
Ça sent la choucroute. Petit 2.
Ça sent le bouc.
Ça sent le bouc. Petit 3. Ça sent le parfum.
Maître.
Moi, j'imagine pas qu'on puisse transporter des parfums dans des citernes, si. Je l'imagine pas.
Ah, si, bien sûr. Comment voulez-vous qu'on les transporte?
Je ne sais pas, parce qu'ils sont faits sur place à Grasse, j'imagine. C'est fait sur place à Grasse.
Ah oui, mais ils sont assemblés à Grasse, pas tous.
Non, d'accord. Mais là n'est pas la question. Donc, on vous demande quelle est la vraie.
Alors, c'est laquelle, la bonne?
Alors, c'est la choucroute.
Il va refaire tout le choucroute.
La choucroute.
Okay. Nicolas.
Moi, j'aime bien le flan aux agrumes et aux pommes. j'ai pas tout compris, mais.
Du coup, moi, je vais prendre le bouc.
Mais c'est vous qui avez raison.
C'est le bouc.
Mais c'est le bouc. Pendant une semaine, dans Faisin, un petit bouc arpentait les rues.
Ouais.
Nul ne savait où il allait, nul ne savait d'où il venait, nul n'arrivait à l'attraper. Il fut même propulsé à l'état de mascotte de la ville sur les réseaux sociaux. Pendant une semaine, il a arpenté les rues. On ne savait pas où il était. Les autorités diront qu'il prenait un malin plaisir, je cite, un malin plaisir à se faufiler entre les mailles du filet. Il était partout et nulle part en même temps. Une sorte de bouc quantique, apparemment, voyez-vous. Donc, il a été récupéré finalement. Et perso, je pense qu'en se guidant à l'odeur, notre bouc devait sûrement chercher son papa.
Bah oui, ça doit être ça. Allez, on vous retrouve dans quelques instants, Jules. Et nous allons à Blangy-le-Château.
Blangy-le-Château,
C'est ça ?
Oui, c'est ça.
Allez, c'est ça. Et avant cela, voici Louane. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Europe 1.
Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
Le quiz qui s'est passé de Jules Bernard Leblon, la suite avec quiz qui s'est passé à Blangy-le-Château.
Oui, c'est du côté du... C'est dans le Calvados.
Dans le Calvados.
Numéro 14, si je ne m'abuse.
Parfait.
Voilà, en Normandie, du côté de... C'est Lisieux, je pense.
Quand
à Malheu... Voilà, bah, quand. Très bien, merci. J'aurais mieux fait de me taire. À Blangy-le-Château. Il y a des gars qui se sont dit, tiens, et si on inventait un nouveau jeu pour rigoler?
Ouais.
Et ils l'ont fait.
Ouais.
Et ça a tellement bien fonctionné qu'ils ont même remis ça cette année. Qu'est-ce que c'est que ce jeu insolite?
Oula, 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 peur.
Petit 1, c'est fini le loto barbant là, ouais. A crié « Kin !» dans la salle des fêtes du village. Voyez-vous, l'association Blangy en vie a inventé le loto bouse.
Ah ouais.
Une vache, une grille, une bouse. C'est le loto bouse.
Bah ouais.
C'est connu, alors, c'est connu.
Ah c'est vrai, vous connaissez le loto bouse?
Ouais, ouais.
Bon, connu, bah, on connu. Arrête là alors quoi. Mais c'est pas ça. Non, pas du tout. Blangy en vie, c'est l'association, a inventé le concours du meilleur nom fictif de village français. Un jury juge la taille, la crédibilité et la poésie du nom fictif de village. Et celui qui gagne le concours a la chance de repartir avec le bus ou avec le train. Enfin, bon, voilà. Mais voilà, content d'avoir gagné le concours. Cette année, le gagnant, c'est Saint-Rémy en Bouzemont, Saint-Genest-Téhisson. Voyez.
Bien sûr.
3. Le concours du sosie d'inconnu. Vous venez, vous montez sur scène, vous imitez le mieux possible l'inconnu dont vous êtes le sosie. Par exemple, Gisèle Blanpied, du Monastier sur Gazeille. Voilà, vous faites votre imitation ou pas, ouais, si vous voulez. Et après, vous allez boire des coups parce que bon, si tu fais ça sobre, c'est très ennuyeux. Petit 1, petit 2, petit 3.
Maître.
Avant toute chose, Lizzie, vous avez raison, c'est dans le Calvados. Hein.
Ah, il me semblait bien.
L'autobouze.
Le l'autobus, oui. Nicolas.
Ouais, l'autobus, c'est tellement commun. Moi, j'aime bien le nom fictif, mais j'aime bien le sosie inconnu. Le sosie inconnu.
Bah, moi, je suis sûre que c'est le l'autobus, mais je vais dire le sosie inconnu. Je vais dire le sosie inconnu parce que.
Ah,
mais c'est génial. Et je me demande même si je ne vais pas l'inventer.
Bah, oui.
La semaine prochaine, dans mon village, j'ai rien à faire. Je pense que je vais faire.
Le festival du sosie de l'inconnu.
Exactement.
C'est le l'autobus.
Mais oui, oh, mais on le fait chez moi.
Ceci dit, pour info, ça, le village qui s'appelle Saint-Rémy en Bouzemont, Saint-Genest et Hisson est un vrai village et c'est le nom de village le plus long de France. Voilà.
Oh.
Donc, alors, là, expliquez le loto-bouze
alors,
parce
le
que
principe est simple.
Certaines personnes et certains auditeurs ne connaissent pas.
Un tableau quadrillé géant est tracé dans un pré. Vous voyez, là c'est un stade de foot, je pense. Hein. Les participants choisissent une ou plusieurs cases sur les 1600 cases existantes en échange de 5 euros la case. L'objectif étant que la vache positionnée au centre du cadre se soulage sur la case que vous avez choisie. Évidemment, le gagnant reçoit un bon de 500 euros. Ceux qui détiennent les 8 cases autour en poche 50 euros chacun. Cette activité insolite est déjà pratiquée en Bretagne ainsi que dans le Nord. 300 personnes environ y ont participé cette année à Blangy. Le château et les bénéfices de cette journée servent à financer d'autres activités de la commune. Notez que les principaux bénéfices doivent être le bar, je pense, et pour cause. Et pour cause, cette année, il a fallu attendre quasiment 16 heures pour que la vache pose
mais
sa petite bouse.
Mais non, mais après, nous, on a fait ça dans le cadre de la fête de l'école et le fermier.
Et si la bouse est à cheval.
On partage les gains, voilà. Et on peut faire ça pour des choses caritatives aussi. Et puis, c'est rigolo. Mais effectivement, ça fait fonctionner le bar. Allez, restez avec nous. Merci, Jules, pour ces infos insolites. Des vraies infos, des vraies régions, avec le quiz des régions et Maître Galibert, c'est juste après ça.
C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
C'est le quiz des régions à 17h44 sur Europe 1 avec Maître Galibert. Vous allez nous faire découvrir une région, un département, une ville.
Pour la région, sachez que la place de la Comédie est le fleuron d'une des plus grandes villes de cette région. La place de la Comédie. Elle est où la place de la Comédie? Elle est à... Ah, vous ne l'avez pas. Elle est à Montpellier. Donc, nous sommes en Occitanie.
Dans l'Hérault.
Vous n'êtes pas très, très fort en place. Hein, vous n'êtes pas très, très fort en place.
Bah,
Alors, écoutez, on va faire un petit tour de table. Je vous donne le nom d'une place et vous me la situez. Je vois que Nicolas...
situé la France.
Là, ouais, déjà.
Alors, Bérénice, on démarre par du facile. La place des Vosges.
Bah, à Paris.
À Paris, bien sûr. Nicolas, c'est pas difficile. La place Stanislas.
Le fort. Stanislas le fort.
À Nancy, on entend les souffleurs d'ici. Jules, c'est un cadeau pour vous. La place Bellecour.
Lyon.
Eh oui. Bérénice, la Grand Place.
Bah, moi, j'en connais qu'une.
Non, pas la vôtre. Ah, pas celle de Bruxelles.
Alors, pas très loin, à Lille.
Oui, à Lille. Nicolas, facile. La place de la Concorde.
À Paris.
Oui. Jules, la plus emblématique place de la Bourse, parce qu'il y en a partout en France, mais la plus emblématique, elle est où, la place de la Bourse, à... Vous n'avez pas l'idée.
À Lyon, non. Bien
non,
sûr,
non,
à Lyon.
Non, à Bordeaux, à Bordeaux, à Bordeaux. Bérénice, la place Masséna.
Ah, ça, ça, je sais. Ça, c'est à Nice.
Exactement. Nicolas, c'est facile. La place du Capitole.
La place du Capitole, c'est à Rome. C'est pas à Rome ?
C'est à Toulouse, la place du Capitole.
Ouais, c'est la petite Rome.
Jules, la place des grands hommes.
Place des grands hommes, c'est à Paris aussi ça.
Alors non, parce que en fait à Paris, la place du Panthéon, on l'appelle la place des grands hommes. Ouais. Mais la vraie place des grands hommes, elle est où ?
À Bordeaux.
Oui.
Mais comment vous savez ça ?
Mais parce que l'année dernière, j'ai fait une chronique face à Patrick Bruel où je lui ai présenté toutes les grandes places des grands hommes et il y en a 12 en France, dont celle à Bordeaux et celle du Panthéon, machin, machin.
Et vous faisiez ça dans le Club de l'été.
Dans le Club de l'été.
Club de l'été, dernière édition, demain matin sur Europe 1, dès 9h. Bon ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise avec Jean Z et tous ses chroniqueurs.
La cité de Carcassonne reste la carte postale de ce département.
Ah.
Pas l'Ariège, non.
Le département
c'est,
de...
C'est les... De l'eau.
Et si sa préfecture...
De l'eau de pluie, de l'eau de là-haut.
Si sa préfecture est Carcassonne, sa plus grande ville est...
Narbonne.
Nous sommes à Narbonne dans l'Aude.
Narbonne donc, la ville avec laquelle vous allez jouer. Quand je dis vous, c'est vous qui vous inscrivez. Bah, pourquoi pas. Il vous reste 3 minutes, le temps de Curtis Mayfield avec Superfly. Vous inscrivez, vous envoyez région au 7-39-21. Mais si c'est possible, si je vous le dis, c'est possible. Et ça se passe comme ça sur Europe 1. Bienvenue.
C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
Michel, tout à l'heure, était du côté de Cognac, l'eau de vie de vin. Elle a marqué 3 petits points. On lui a dit, c'est pas terrible, Michel. Mais bon, voilà. Mais en même temps, que va faire Viviane ? Bonjour, Viviane.
Eh bien, bonjour, Bérénice. Et bonjour, tout le monde.
Soyez la bienvenue, Viviane.
Bonjour, Viviane.
Oui, ben arrêtez, c'est bon. Vous êtes au Plessis-Trévise, c'est dans le 94 Val-de-Marne.
Oui.
Vous confirmez, c'est très bien. Fan de Formule 1. Et Viviane, ça reprend là ce week-end ?
Eh oui, oui, oui.
Ah, le circuit de Zandvoort. Alors.
Oui, oui.
Vous supportez qui ? Vous supportez qui, vous, Viviane ?
Ah ben moi, c'est Lewis Hamilton.
Ah, oh, j'ai eu peur. Ah, très bien.
Comme
très
vous,
bien. Ah, bah, comme moi. Donc on peut continuer à se parler. Vive Lewis. Et écoutez, en plus, Viviane, c'est pas n'importe qui. Viviane, oui. Viviane, elle a joué avec Johnny.
Comment ça ?
Elle a joué avec, avec David Lansky. Oui, Johnny Hallyday dans la série David Lansky.
Ah oui.
Elle était la greffière. Ah bah ouais.
Oui. Moi, j'étais, comme on dit, une actrice de complément. Hein. J'avais répondu à un casting.
Ah, très bien. Allô.
Elle ne répond plus.
Viviane ?
Elle a répondu à un casting, elle ne répond plus.
Viviane ?
J'étais assise à côté de lui.
Attendez, Viviane, attendez, parce qu'on a une très mauvaise communication. On va jouer tout de suite avec vous. J'espère que vous allez bien entendre les questions de Maître Galibert, direction Narbonne.
C'est parti, Vivi. Question numéro 1. Narbonne possède une plage sur sa commune. Vrai ou faux ? Comment vous dites ?
Vrai.
Bonne réponse. Une plage de 5 km, une plage de sable fin qui s'appelle...
Narbonne plage.
Mais bien sûr, bravo, voyez quand vous suivez Nicolas,
mais
vous y arrivez.
Très
hein.
Fort.
Question numéro 2. Connaissez-vous Nicolas, Jules, Bernice, le Narbonnais le plus célèbre ?
Charles Trenet.
Bien sûr, Charles Trenet.
Bonjour les hirondelles, il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit.
Viviane, comment surnommait-on Charles Trenet ? Petit A, le fou chantant, petit B, monsieur 100 000 volts.
Le fou chantant.
Mais voilà.
Mais oui, le fou chantant, bonne réponse.
Monsieur 100 000 volts, c'était l'autre.
Mais c'était Gilbert Bécaud. Troisième question, Viviane. Vous êtes toujours là, Viviane ?
Oui.
On n'entend pas très bien.
Non.
Ça y est.
Il faut parler dans le bas du téléphone. Dans le haut, c'est pour écouter.
Oui, c'est vrai.
D'accord, ouais.
Viviane, quelle est la particularité de la cathédrale de Narbonne ? Petit A, c'est la plus haute d'Europe. Petit B, elle n'a jamais été terminée. Petit C, elle n'a pas de toit.
Oh mon Dieu.
Ah bah oui,
justement. Ça, c'est de circonstances.
Je ne sais pas.
Allez, Viviane.
Bon, elle n'a pas de toit.
Elle n'a jamais été terminée. Et c'est le monument le plus prestigieux de la ville. Alors, ça nous fait combien pour l'instant?
3 points.
Il faut à tout prix marquer sur cette dernière question. Viviane, le festival Barque en Seine accueille ce week-end les plus grandes vedettes, comme chaque fin d'été, pour des concerts exceptionnels. Quelle est précisément la particularité de ces concerts, Viviane? Petit A, la scène est sur l'eau. Petit B, les concerts ont lieu à midi. Petit C, tout le monde porte un chapeau. Ou petit D, l'entrée est gratuite.
Ah là là.
Comme vous dites.
Allez, Vivi.
Moi, j'irai bientôt, hein, mais bon.
Ça, Viviane.
Allez, Viviane.
Bon, alors, sur l'eau.
Non. Oh. L'entrée est gratuite et vous pourrez applaudir ce soir Claudio Capeo, figurez-vous.
Ah ouais, quand même.
Ouais. Et vous pourrez également applaudir samedi soir, toujours avec une entrée gratuite, Bernard Lavilliers.
Très bien, bah, c'est excellent. Noté si vous êtes du côté de Narbonne ou toujours sur la route. Voilà.
Eh bien, ça nous fait une égalité ou je me suis trompé?
Égalité. Ah, Michel, vous êtes là?
Oui.
Mais Michel est là, Viviane aussi, parlez bien dans le micro Viviane. Viviane, oui. Et Michel, égalité. On vous a posé une question hors antenne et celle qui s'est rapprochée le plus de la bonne réponse, eh ben c'est vous Viviane.
C'est pas possible.
Si je vous le dis. Viviane, on vous envoie très rapidement votre panier garni, un panier garni vegan composé de délicieux produits, notamment du jus de pomme bio, une crème d'aubergine au sésame, une olivade noire aux tomates séchées, de la moutarde de salicorne, du sel de Guérande au poivre de Bérose. Quant à vous Michel, pour bien préparer la rentrée, on vous offre un ensemble de fournitures scolaires Mapet Smiling Planet, avec toute une gamme éco-conçue et durable. Il y a la trousse taille crayon, gomme, compas, ciseaux, ardoise, bref, tout ce qu'il faut. Mesdames, rendez-vous demain.
Merci.
Soyez à l'écoute demain pour
Merci.
Le... C'est pas fini, pour le grand tirage au sort. Rendez-vous entre 16h et 18h pour la dernière de l'été. Vous serez là, les garçons?
Oui.
Eh ben, ça tombe bien, moi aussi. Allez, voici tout de suite Wilfried De Villers sur Europe 1 pour Europe 1 Soir. Très belle soirée.
Vous avez découvert les secrets de votre région dans l'émission C'est arrivé près de chez vous avec Dacia, le partenaire automobile de toutes vos aventures.